VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du lundi 26 novembre 2018 en direct de Washington. Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, appel du nouvel archevêque de Kinshasa au respect de l'autre, en prélude aux élections du 23 décembre.
Visite du président du Tchad, Idriss Déby Itno, en Israël après plusieurs décennies de rupture entre les deux pays.
Escalade entre Kiev et Moscou après la saisie de 3 navires militaires ukrainiens en mer Noire.
L'Union européenne et le Royaume-Uni entérinent un accord de divorce à l'issue d'un sommet à Bruxelles.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, le nouvel archevêque de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, a appelé hier les Congolais à ne pas céder aux provocations d'ici aux élections prévues le 23 décembre. Le point avec Idriss Fall.
Mgr Fridolin Ambongo remplace le cardinal Laurent Mosengo. Dans son serment inaugural, il a appelé à ne pas céder à la provocation et à la violence pendant cette période de campagne électorale. En toutes circonstances, nous devons apprendre à nous respecter en respectant l'autre dans sa différence légitime, a-t-il ajouté. C'était pendant une messe en plein air devant plusieurs milliers de fidèles, dont deux candidats à l'élection présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary de la coalition au pouvoir et l'opposant Martin Fayulu. Les évêques congolais ont aussi appelé vendredi à des élections crédibles en précisant que la conférence épiscopale nationale du Congo ne soutient aucun candidat. En fin 2016, la CENCO avait parrainé l'accord de la Saint-Sylvestre, ouvrant la voie à la tenue des élections. Sur le rôle des catholiques dans la vie politique, le président Joseph Kabila a fait de l'ironie en début janvier en disant que nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César.
En République centrafricaine, un chef de milice du PK5, le quartier à majorité musulmane de Bangui, a été tué dimanche par un commerçant du secteur, théâtre d'un regain de violence ces derniers jours. C'est ce qu'a appris l'AFP auprès d'un imam et de plusieurs habitants. Le corps de ce chef de milice, Mahamat Tahir, alias Apo, a été déposé dimanche matin à la mosquée Ali Babolo, selon un imam. Il a été tué par un commerçant. A indiqué un habitant du PK5, ajoutant que les hommes d'Apo sont ensuite allés piller la boutique de ce commerçant pour se venger. Ce dernier avait refusé de fermer boutique à l'occasion d'une journée ville morte décrétée à la suite d'une fusillade mortelle au PK5 jeudi, selon plusieurs habitants.
Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, effectue une visite en Israël. Ce sera la première visite d'un chef d'État de ce pays africain après plus de 4 décennies de rupture des relations diplomatiques avec l'État hébreu. Le point avec Rosine Mounezero.
Les relations entre Israël et le Tchad sont rompues depuis 1972. Idriss Déby Itno a été reçu par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a qualifié sa visite d'historique. « Nous reprenons une coopération qui a été suspendue », a indiqué M. Netanyahu lors d'une conférence de presse conjointe après leur rencontre. La coopération entre les deux pays va notamment porter sur la lutte contre le terrorisme, un objectif que nous avons en commun, a assuré M. Netanyahu, affirmant qu'Israël revient en Afrique et que l'Afrique revient en Israël. Nous entrons dans une nouvelle ère de coopération, a souligné pour sa part M. Déby, qui a précisé que la perspective de reprise des relations n'occulte pas le problème palestinien. Le Tchad est engagé sur plusieurs fronts dans la lutte contre Boko Haram, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, et contre les djihadistes dans le nord du Mali. À ce titre, il a reçu des États-Unis des véhicules et navires militaires d'une valeur de 1,3 million de dollars. L'armée tchadienne et l'Agence nationale du renseignement sont aussi équipés de matériel militaire israélien.
Le patron d'une société militaire privée qui avait fortement contribué à reprendre aux djihadistes de Boko Haram des pans entiers de territoire au Nigeria a attribué dimanche l'explosion des violences aux mauvaises décisions politiques du président Muhammadu Buhari. L'accusation est de l'ancien officier sud-africain Eben Barlow, dont l'entreprise de mercenaires avait été engagée pour aider l'armée nigériane en 2015. Cette dernière subit des pertes de plus en plus importantes face aux djihadistes qui multiplient ces derniers temps les attaques de bases militaires dans le nord du Nigeria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Ukraine a fait un pas important vers la déclaration d'une loi martiale après la saisie manu militari par la Russie de 3 navires de la marine ukrainienne. Cet incident a fait des blessés dans le détroit de Kerch, marquant l'accès à la mer d'Azov et a provoqué une escalade sans précédent dans cette zone sensible. La tension est telle que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion d'urgence, selon des diplomates qui ont précisé qu'elle avait été réclamée par les deux pays.
L'Union européenne et le Royaume-Uni ont entériné un accord de divorce à l'issue d'un sommet à Bruxelles. Pour autant, rien n'est gagné d'avance. De nouveau, Idriss Fall.
La première ministre britannique Theresa May a affirmé que l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne était le seul possible à l'issue du sommet européen à Bruxelles. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, il est tragique de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne. Ce traité de quelque 585 pages doit encore être ratifié par le Parlement britannique avant le 29 mars 2019, date prévue du départ du Royaume-Uni. Au Parlement, Theresa May fait face à une forte résistance au sein de son propre parti conservateur et au sein de l'opposition. Après son adoption ou son rejet par la Chambre des communes, le texte devra aussi être ratifié par le Parlement européen. Pour le moment, cet accord règle la question de la facture que devra payer Londres à Bruxelles et prévoit une solution pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord. Outre la question de Gibraltar, les futurs droits de pêche des Européens dans les eaux britanniques continuent à poser problème. Après 17 mois de négociations difficiles et plus de 2 ans après le référendum britannique qui a voté le Brexit, le divorce est presque consommé.
Les autorités américaines ont rouvert le point d'entrée de San Isidro entre San Diego et Tijuana au Mexique après avoir bloqué tout trafic de part et d'autre de la frontière en réaction aux tentatives de migrants tentant de la franchir illégalement. Quelques 500 hommes, femmes et enfants avaient forcé les barrages de la police mexicaine, obligeant les agents américains à user de gaz lacrymogène alors que des hélicoptères de la patrouille frontalière américaine survolaient la zone.
États-Unis toujours, après plus de 2 semaines de lutte, les pompiers ont réussi à maîtriser à 100% le Camp Fire, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Jean-Roger Bion.
Les pompiers ont annoncé hier être venus à bout de ce feu qui a brûlé quelques 620 km² dans le nord du Golden State en effaçant de la carte la petite ville de Paradise. Des milliers de pompiers ont été mobilisés et des dizaines de milliers de personnes ont été forcées d'évacuer. Samedi soir, les autorités locales ont fait état de 87 morts, dont seulement 54 sont identifiées. 249 personnes sont toujours portées disparues. L'incendie qui s'était déclenché le 8 novembre a détruit près de 14 000 habitations, 530 commerces et 4 500 autres bâtiments. Les épaisses fumées de l'incendie ont été aperçues jusqu'à San Francisco, à plus de 240 km de la ville de Paradise. La ville a été contrainte de lancer une alerte à la pollution de l'air et des écoles ont été temporairement fermées. Par ailleurs, 3 personnes ont trouvé la mort dans un autre incendie, plus au sud, touchant la célèbre station balnéaire de Malibu. Le Woosley Fire, qui a dévasté plus de 390 km², est lui aussi entièrement maîtrisé. La Californie, victime de sécheresse chronique, a connu plusieurs incendies ravageurs depuis 1 an.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Au Mali, la Banque Atlantique s'est engagée à financer un programme d'électrification dans les zones rurales. Des installations solaires photovoltaïques permettront l'électrification des centres de santé, des écoles élémentaires, l'installation de lampadaires solaires pour l'éclairage public, de séchoirs, ainsi que la construction de systèmes d'adduction d'eau potable. Le village de Kenyebougou, situé à 35 km de Ségou, a déjà été identifié comme première localité devant bénéficier de ce programme. La Côte d'Ivoire vient de conclure un accord de 14,9 milliards de francs CFA avec l'Espagne pour des investissements dans les secteurs d'eau et d'électricité. Cette convention permettra la construction du poste source 225-33 kV d'Aboma à Niama pour un montant de 9,6 milliards de francs CFA et la construction du château d'eau de 5000 mètres cubes par heure à Abobo à Vukatier pour un montant de 5,3 milliards de francs CFA pour faciliter l'accès à l'eau potable. Enfin, les investisseurs continuent de parier sur une baisse des cours de pétrole jusqu'à 50 dollars et ce même si les pays de l'OPEP pourraient réduire leur production lors de leur réunion de début décembre. Les opérateurs s'inquiètent d'une surabondance de l'offre de pétrole quelques semaines après la mise en place de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran avec plusieurs exemptions sur le commerce de l'or noir qui ont surpris les analystes.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football en Amérique latine, la finale retour de la Copa Libertadores a été de nouveau reportée.
Oui, l'instance qui gère le football en Amérique du Sud vient d'annoncer le nouveau report de cette rencontre entre River Plate et Boca Juniors. Une décision prise par son président Alejandro Dominguez. Les conditions n'ont de nouveau pas été réunies pour que le match se joue dans un contexte paisible. À noter que le cas de Boca Juniors a été attaqué vendredi dernier par des jets de projectiles. Ce qui avait provoqué quelques blessures légères dans le rang des joueurs. Au match aller, les deux équipes se sont séparées sous le score de 2-2.
Sur le continent, en Coupe de la CAF, le Raja remporte le premier match de la finale face à Vita Club.
De retour à ce niveau, après 15 ans d'absence, le Raja de Casablanca n'a pas laissé passer sa chance. Nettement dominateur face à un adversaire inoffensif, le club marocain a pris une énorme option sur le titre en étriant la SV Club 3-0. Les trois buts ont été marqués en deuxième période. Les Marocains se déplaceront à Kinshasa dans une semaine avec une avance confortable.
On reste toujours au niveau des clubs pour dire que la Confédération africaine de football a décidé de sanctionner le Cameroun.
Oui, et c'est par rapport au nom de son second représentant pour l'édition 2019 de la Coupe de la CAF. Le pays des Lions Indomptables devra désormais compter sur un seul club dans cette compétition, en l'occurrence New Stars qui affrontera les Burundais de Vultalo. L'Afrika Foot n'a pas pu organiser à temps la finale de la Coupe nationale entre Edin Sport et Lyon Blessé de Futuni, dont le vainqueur devrait affronter les Ghanéens d'Asante Kotoko.
Football toujours et au niveau des dames, on connaît les affiches des demi-finales de la CAN de la catégorie au Ghana.
Et ce sera justement sans le pays hôte éliminé à l'issue des matchs de poule. On aura donc demain Afrique du Sud-Mali, une première pour les Maliennes, et Cameroun-Nigeria, un classique, puisqu'il s'agit de l'affiche des deux dernières finales de la compétition qui ont à chaque fois tourné à l'avantage des Super Falcons. Il faut préciser que les deux finalistes plus le vainqueur du match de classement seront qualifiés pour le Mondial féminin 2019.
Au Mondial féminin des moins de 17 ans, il n'y a plus de sélection africaine en lice.
Dernier représentant du continent, le Ghana a été sorti par le Mexique au tir au but 4-2. Le score était de 2-2. Pourtant, les Ghanéennes ont mené au score à 2 reprises. L'aventure s'arrête donc là pour cette sélection qui tombe à son tour comme le Cameroun et l'Afrique du Sud éliminés au premier tout. Et puis, du basketball avec la NBA, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Orlando et les Lakers, 108-104. Détroit et Phoenix, 118-107. Atlanta et Charlotte, 124-123. Philadelphie et Brooklyn, 127-125. Toronto et Miami, 125-115. New York et Memphis, 103-98.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. De nombreuses réactions à Kinshasa après la désignation vendredi à Nairobi au Kenya de Félix Tshisekedi comme candidat unique du ticket UDPS-UNC. Vital Kamerhe, au bout d'une semaine de discussion, a décidé de se retirer de la course à la présidentielle pour soutenir avec son parti la candidature de Félix Tshisekedi, dont il deviendrait le premier ministre en cas de victoire le 23 décembre prochain. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, et l'Union pour la nation congolaise, l'UNC ainsi, saluent l'accord politique signé à Nairobi par leurs leaders, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, lequel accord stratégique constitue un pas décisif vers la concrétisation de l'alternance tant attendue par la population congolaise.
C'est la déclaration commune intervenue au lendemain de l'annonce à Nairobi au Kenya de la désignation de Félix Tshisekedi comme candidat unique du ticket UDPS-UNC. Au nom des deux partis, Jean Baudouin Mayo, le secrétaire général de l'UNC de Vital Kamerhe, s'est félicité de cet accord et a promis le soutien des deux états-majors au désormais candidat unique Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui a poussé Vital Kamerhe à se retirer au profit de Félix Tshisekedi? Le président de l'UNC évoque pour justifier ce choix le combat politique de l'UDPS Tshisekedi.
Félix Tshisekedi est président des plus grands partis de l'opposition dans mon pays. Personne ne va me contredire, 38 ans de liste. L'UDPS est à n'en point douter le parti qui a lutté avec Étienne Tshisekedi en tête pour libérer le peuple congolais. Et moi, j'ai voulu honorer la mémoire de notre patriarche sur le plan politique, papa Étienne Tshisekedi. Notre ticket avec Félix et moi, nous avons tenu compte des desiderata du peuple congolais, des desiderata des acteurs politiques de l'opposition. Et je pense que c'est le ticket que tout le monde attendait.
Vital Kamerhe, qui devrait être le premier ministre de Félix Tshisekedi en cas d'élection de ce dernier le 23 décembre prochain et au cas où la coalition obtenait la majorité à l'Assemblée nationale. De son côté, Délice Sanga, cadre d'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, resté fidèle à l'accord de Genève, appelle à de nouvelles discussions entre les deux camps de l'opposition pour se désigner un seul et unique candidat de l'opposition entre Félix Tshisekedi d'une part et Martin Fayulu de l'autre.
Aussi bien ceux qui ont signé à Nairobi que Genève, nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est Joseph Kabila et son camp, leur candidat Emmanuel Ramazani Shadary et le FCC. Et donc nous devons le battre à l'élection présidentielle. Il va sans dire que la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, malheureusement, ressemble à s'y méprendre à la situation que nous avions en 2011. Nous avons une pluralité des candidats. Et que toute initiative qui pourrait être conduite pour avoir un seul candidat et une unité beaucoup plus renforcée ne peut qu'être encouragée.
Dans les quartiers généraux de l'UDPS, Tshisekedi de l'UNC de Vital Kamerhe, la joie était à son comble à l'annonce de la désignation de Tshisekedi. Les militants de Félix et de Vital qui se mobilisent désormais pour réserver un accueil digne à leurs leaders qui rentrent mardi à Kinshasa pour démarrer leur campagne électorale.
C'est quelque chose de bien, non pas seulement pour nos deux partis, mais également pour le peuple congolais. Et nous avons très bien accueilli ces signatures qui s'est faites à Nairobi. Et je crois que cette fois-ci, ça sera vraiment pour le bonheur du peuple congolais et pour l'alternance le 23 décembre 2018.
C'est ce qu'on cherchait. On ne pouvait pas aller aux élections seules, sans qu'il y ait un autre parti. Et voilà pourquoi je suis très content,
Les peuples congolais s'attendaient à ce que l'UDPS et l'UNC puissent se choisir un candidat commun, candidat du peuple. Ils ont fait cela. Vraiment, merci à M. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Mali, le mandat des députés a été prorogé de 6 mois, c'est-à-dire du 31 décembre 2018 au 30 juin 2019. Il y a eu vote de la loi organique à ce sujet. Des détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
135 pour, 5 abstentions, 0 contre. C'est le résultat du vote portant sur la loi organique de la prorogation du mandat des députés. Honorable Zoumananchi Doumbia, président de la commission loi de l'Assemblée nationale du Mali.
On voulait organiser les élections législatives, mais la classe politique dans son intégralité a demandé le report pour permettre en tout cas la prise en charge de certaines réformes majeures. Et ces réformes ne peuvent se faire sans une assemblée digne de ce nom. Et le mandat des députés arrivant en terme le 31 décembre, on était dans l'impossibilité de faire ces réformes sans proroger le mandat des députés. Et c'est ce qui justifie, en tout cas, la saisine de la Cour par le président de l'Assemblée nationale. Quelle Cour a donné son avis favorable quant à la prorogation du mandat des députés qui permettra sans nul doute de faire les grandes réformes dont notre pays a tant besoin.
Les opposants maliens avaient formulé beaucoup de griefs contre cette loi de prorogation des mandats des députés, mais finalement leurs députés ont voté la loi en question. Mahamadou Awa Gassama Djabi, député de l'URD.
Et moi, je crois que ça, c'est obligatoire pour qu'on voit augmenter le mandat des députés en 6 mois pour qu'on sorte de la crise. Il y a un collègue qui m'a dit à Tchad, ils sont en 4e fois pour prolonger le mandat. Si on n'a pas fait ça, il n'y a pas de pays. C'est ce qui est important par rapport aux reports de cette constitution-là. Il faut le dire. Il y a un moment, on a dit que non, touche pas à la constitution. Mais les derniers mots, les Maliens, c'est un appel. C'est ma façon, Gassama. Il faut aller réformer, il faut aller les modifications de constitution pour adresser beaucoup de problèmes. Et au Mali, aujourd'hui, voilà pourquoi vraiment. On a prolongé le mandat des députés et vous avez les majorités, les poissons, tous les monnaies d'accord.
Outre les 106 députés de la majorité, 28 députés au moins de l'opposition ont voté la loi. Seuls 5 députés de l'opposition se sont abstenus.
Cela dénote qu'au niveau du Parlement, on a choisi le Mali. Sinon, quand même, la démocratie, c'est sur les deux pieds. L'opposition et la majorité, vous avez dit qu'il y a l'unanimité aujourd'hui. La prolongation du mandat des députés, les gens voient autrement, c'est pas ça. Si on ne vote pas ça, là, c'est un blocage total. C'est le volo du Mali. Donc, à l'unanimité de la voix, nous avons choisi le Mali.
Certains partis politiques extra-parlementaires trouvent que l'adoption de la loi organique de la prolongation du mandat des députés n'est pas la solution à la crise que traverse le Mali. Jamil Bitar, président du MCATT.
Il convient à ce sujet de préciser que le fondement et le support juridique acquis à travers un avis ou une décision juridictionnelle de la Cour constitutionnelle, quel qu'il soit, doivent nécessairement reposer sur des compromis politiques résultant d'accords ou d'arrangements politiques. L'ouverture d'un cadre de dialogue le plus large possible en vue d'aboutir à un consensus global autour du report des élections législatives, du projet de révision constitutionnelle, du projet de réforme administrative.
La loi organique adoptée par les députés doit être conforme avec la constitution malienne. C'est pour cela qu'elle va passer par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation par le président de la République, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Une nouvelle usine de tracteurs vient de voir le jour au Cameroun. Elle fait l'assemblage et la mise à disposition des tracteurs à un prix subventionné par l'État. C'est un vieux projet de 8 ans qui marque ainsi la mise en fonction du complexe industriel d'Ebolewa, une ville de la région natale du président Paul Biya. De Yaoundé, Emmanuel Juntap.
900 des 1000 premiers tracteurs sortis de l'usine d'assemblage du complexe industriel de Bolova sont d'ores et déjà entre les mains des producteurs individuels, des groupes d'initiatives communes, des confessions religieuses et certaines collectivités territoriales. Des engins destinés à accroître principalement leur production de riz, de maïs ou encore de manioc.
Avant là, on ne pouvait pas cultiver 10 hectares avec le bœuf de trait, c'était difficile.
Gabriel Dubasso, responsable d'une coopérative de production de riz à Yagoua, dans la région du nord du Cameroun, à près de 1400 km de Yaoundé.
Quand l'État, à travers le Minepart et le Minadin, nous ont remis les tracteurs, la première année, nous avons cultivé 50 hectares. La deuxième année, nous sommes retrouvés avec 200 hectares. Et la troisième année, plus de 400 hectares.
Ces tracteurs ont aussi diversifié la mécanisation agricole au Cameroun, à travers d'autres cultures, la banane plantain, l'ananas, le palmier à huile et le sésame.
Nous avions été accordés 6 tracteurs à 100% pris en charge par l'État.
Jean-Marie Sop, président du conseil d'administration d'un acropole de production d'ananas à Loé, à plus de 226 km de Douala, dans la région du littoral.
C'est l'élément essentiel qui a permis à ce que l'agropole puisse passer de ces petites quantités qu'il faisait et de manière très archaïque à une agriculture qui s'approche vers l'agriculture moderne de deuxième génération.
Dans la région de l'ouest du Cameroun, la valeur ajoutée des tracteurs du complexe industriel de Bolova s'évalue en termes de nouveaux emplois.
Ces tracteurs ont amélioré l'économie de pratiquement plus de 60%.
Marie-Yvonne Tagne, comme les directrice d'une société de production et de transformation de riz située à quelques kilomètres de Bafoussam.
Nous avons également augmenté le nombre d'employés parce qu'il fallait les maintenanciers, les ingénieurs de suivi et les tractoristes.
Au stade actuel, l'assemblage et la mise à disposition des tracteurs aux agriculteurs camerounais constituent la phase 1 d'un programme baptisé Périmaïs Manioc.
Ces tracteurs sont subventionnés.
Janvier Oum Elouma, coordinateur du programme Périmaïs Manioc.
Qui peut bénéficier des équipements? Il faut être camerounais. Il faudrait prouver au moins que vous avez une trentaine d'hectares. On autorise à ce que sur une période de 3 ans, vous pouvez payer la totalité de votre traite.
Le projet d'assemblage des machines agricoles envisage dans sa deuxième phase de doter chaque chef de région du Cameroun d'un pôle de machines afin de viabiliser les exploitations, désenclaver les bassins de production et mieux préparer les sols cultivables avant l'entrée en jeu des tracteurs. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Au Sénégal, tendance peut-être vraie dans les autres pays, les jeunes lisent de moins en moins ou ne lisent presque plus. C'est dû à l'évolution technologique pour certains et pour d'autres, c'est le temps qui fait défaut. En tout état de cause, cela a assurément un impact négatif sur le niveau de langue, nous dit notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Depuis que j'ai quitté le collège et le lycée, concernant les livres, là, je vous dis que je ne suis pas trop dans les livres, quoi, dans les bouquins.
Comme beaucoup de jeunes, Hassan Diop, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ne lit presque pas. Il indique que la lecture demande du temps, un temps qu'il n'a pas.
Des fois, c'est un manque de temps, parce que prendre une œuvre et le lire intégralement, il faut vraiment du temps. Plus de 100 et quelques pages, je pense que ça aussi, c'est un problème, c'est un manque de temps.
Ce fonctionnaire qui a requis l'anonymat ne se cherche pas d'excuses. Il reconnaît que l'avancée de la technologie a pris le pas sur la lecture.
Il faut l'avouer que depuis un moment quand même, la lecture devient, avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est internet, la lecture prend de moins en moins de place dans notre quotidien. Et surtout pour ceux qui sont jeunes travailleurs, nous sommes dans un système où aujourd'hui, les entreprises, là où je travaille, vous avez 8 heures ou 9 heures de travail. Quand on rentre, on est automatiquement sur internet et c'est que de moins en moins on s'intéresse à la littérature. De moins en moins on lit.
Du côté des enseignants, on se désole du désamour des jeunes envers la lecture. Deneiba Bey, professeur de français, estime que plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation.
La question de l'édition, la question de la distribution, donc la question de la disponibilité même du livre, l'accès au livre. Dans les écoles, traditionnellement, nous avions des bibliothèques, et même au niveau, n'est-ce pas, de certaines grandes villes qu'on appelait les centres culturels, tout cela a presque disparu. Ensuite, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la concurrence aussi des nouveaux médias. Internet, le téléphone portable avec les connexions qui sont facilitées, etc. À l'époque, on parlait de la télévision, mais je crois qu'aujourd'hui, la télévision n'est pas une concurrence, n'est-ce pas, gênante pour la lecture.
Les parents d'élèves sont également conscients du fait que les jeunes ne lisent plus. Nour Thiam est analphabète, mais il encourage les membres de sa famille à lire. Pour lui, le savoir est dans les livres.
J'ai des petits, mais ils ne lisent presque pas. Voilà pourquoi je les oblige à lire durant les vacances scolaires. C'est mieux que de passer son temps à faire la fête et aller à la plage, par exemple. Nous devons inciter nos cadets à lire. Tout est dans la connaissance livresque.
Bien que la lecture soit importante, elle est de plus en plus délaissée par les jeunes qui connaissent peu des auteurs africains. Au Sénégal, les innovations annoncées pour y remédier ne sont toujours pas effectives. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
Le monde d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abdelrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.